Oui, donc je vais essayer en un quart d'heure, 20 minutes, de dire un peu ce qu'est la physique quantique et ce que n'est pas la physique quantique et comment elle se rattache à la physique de tous les jours, à notre physique de tous les jours. Donc, ce qu'on appelle la mécanique quantique, c'est un ensemble de lois, un ensemble d'une théorie, disons, qui a été développée à partir du début du XXe siècle. Parce qu'on n'arrivait pas du tout à expliquer ce qu'on observait au niveau principalement des particules élémentaires, des atomes, des noyaux. Et progressivement, ça s'est développé, on s'est rendu compte que ça rendait bien compte de la réalité. Et donc de la mécanique quantique qui régit un peu les interactions entre les particules, on est arrivé à la physique quantique qui décrit le monde de façon plus générale. Et c'est un monde qui nous paraît assez étrange, qui a un certain nombre de caractéristiques qui vont contre le sens commun. Par exemple, l'écoulement du temps n'est pas le même sur un objet qui se déplace que sur un objet fixe, j'y reviendrai, qu'une particule, en fait, c'est en même temps une onde, et qu'une onde est en même temps une particule, ce qu'on appelle la dualité onde-particule, donc on ne sait plus très bien de quoi on parle, que l'énergie d'une particule ne peut pas varier de façon continue, mais elle varie par source, qu'on appelle les quantas, d'où le terme de mécanique quantique, et que, par exemple, il y a beaucoup de choses étranges, on ne peut pas connaître précisément, en même temps, la vitesse et la position d'une particule. Si on connaît très bien sa position, on connaît mal sa vitesse, et vice-versa. Donc, un ensemble de choses assez étranges, mais qui font partie intégrante, qui sont des conséquences de la théorie, qui par ailleurs rend très bien compte de ce que l'on observe dans les expériences. Donc tout ça c'est décrit par un formalisme mathématique qui est très abstrait. On ne peut pas vraiment se faire une image mentale du monde quantique. Autant le monde à notre échelle et au-dessus de notre échelle, on peut se le représenter parce que en fait ça correspond à notre expérience de tous les jours, autant là, il n'y a vraiment pas une image mentale. Il y a plein de paradoxes, on aboutit à plein de paradoxes, je n'ai pas le temps de décrire, mais des histoires de chats qui sont à la fois morts et vivants, des histoires de particules qui sont liées même à distance et sans qu'il y ait pour autant transmission d'informations à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Et pourtant, donc, malgré toutes ces bizarreries, la mécanique quantique décrit très bien les phénomènes et permet de faire des prévisions qui sont exactes. Donc elle est valide. Bon, elle est toujours sujette à révision comme toute théorie scientifique, mais elle fonctionne très bien. Alors le message surtout que je voudrais faire passer dans ce quart d'heure, c'est que ça n'est pas un autre monde. Il n'y a pas le monde de tous les jours et le monde quantique. Simplement, à notre échelle, la plupart des effets quantiques ne sont pas décelables, ils sont imperceptibles. Je vais vous montrer quelques exemples, parce que dans notre monde de tous les jours, les vitesses sont faibles, les masses sont importantes et le nombre d'atomes est considérable, alors que la mécanique quantique s'applique dans toute sa complexité. Elle s'applique surtout à des particules très petites qui se déplacent très vite et qui ont une masse extrêmement faible, sinon nulle. Mais dans notre monde, la mécanique quantique qui s'applique toujours, mais elle redonne alors en première approximation, même en deuxième ou en troisième approximation, elle revient à la mécanique classique. Et c'est ça que je voudrais vous montrer sur deux ou trois exemples. Donc par exemple, une des constantes qui intervient souvent en mécanique quantique, c'est la vitesse de la lumière. Rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, et la vitesse de la lumière est la même, quel que soit l'endroit d'où on la mesure, que cet endroit soit statique ou soit en mouvement, et cette vitesse c'est 300 000 km à la seconde, pas km à l'heure, c'est km à la seconde, donc c'est un chiffre très très élevé. Par exemple, la vitesse d'un Airbus, d'un avion dans les mêmes unités, c'est 0,3 km par seconde. De la même façon, la masse d'un proton, qui est typiquement proton constituant des noyaux, des atomes, qui est typiquement à l'échelle des phénomènes quantiques, c'est 10-24 grammes, c'est-à-dire 0,2401 grammes, alors que la masse d'une bactérie, c'est pas beaucoup, c'est 10-12 grammes, mais ça fait quand même 1 million, 2 millions de fois plus. Une bactérie, c'est énorme par rapport à un proton. Par exemple, si on pense à un petit virus, il y a environ au moins 1 million d'atomes dans un petit virus. Donc, si vous voulez, avec une bactérie ou avec un virus, on est en fait déjà à notre échelle. On n'est plus à l'échelle où les phénomènes quantiques sont sensibles. Alors, trois exemples. Un exemple touchant à la relativité, à la dualité onde particules et à la radioactivité. Alors, la relativité, vous connaissez bien le paradoxe, je pense. Un objet qui se déplace à une vitesse proche de la lumière, sur un objet qui se déplace à une vitesse proche de la lumière, le temps est ralenti par rapport à un point fixe. Et donc là, on a un astronaute qui dit au revoir à un collègue avant d'embarquer sa fusée, et après avoir fait un périple de quelques années à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, il revient, lui n'a pratiquement pas vieilli, et son collègue a beaucoup vieilli. Le temps s'est écoulé beaucoup plus lentement sur la fusée que sur la Terre. Et ça, c'est décrit par des formules mathématiques tout à fait précises, calculables, et que l'on peut vérifier. Par exemple, effectivement, dans mon existence antérieure de physicien des particules, on regardait les particules par différents moyens d'observation. Ici, c'est ce qu'on appelle une chambre à bulles, où la particule, si elle est chargée, peut laisser des traces. Et ça, c'est une particule instable qui s'appelle un K-. Qui se désintègre à partir de ce moment-là en donnant une autre particule qui s'appelle un pi-, et puis des photons de très grande énergie qu'on ne voit pas parce qu'ils interagissent très peu avec la matière, mais qui traversent ici une petite lame de plomb et qui donnent naissance à des couples d'électrons positifs et négatifs. Bon, tout ça, c'est pour dire que ces particules qui sont presque infiniment petites, qui se déplacent presque à la vitesse de la lumière, on peut les voir, on peut les mesurer, on peut voir combien de temps elles vivent, elles ont une durée de vie très brève. Et bien, pour une particule de ce genre qui se déplace à 270 000 km à la seconde, ce qui est tout à fait courant dans ce qu'on observe dans des accélérateurs de particules comme l'accélérateur du CERN à Genève, pour une telle particule, le temps est ralenti de moitié. Donc ça, on le voit très bien, on voit la longueur de la trace, on peut en déduire, et on peut prévoir quelle sera la longueur de la trace d'une certaine particule, et c'est parfaitement décrit par la mécanique quantique. Mais par contre, si on considère un Airbus, donc il vole à 1000 km à l'heure, ce qui fait, comme on l'a vu tout à l'heure, 0,3 km à la seconde, on peut calculer de combien le temps va être ralenti à bord de l'Airbus sur un trajet Paris-New York qui dure 6 ou 7 heures, et on trouve que sur ces 6 ou 7 heures, le ralentissement du temps est égal à 0,0000001%, ce qui fait il y a une petite fraction de microseconde sur un trajet Paris-New York. Autant dire que c'est indétectable, non mesurable, et ça ne se voit pas du tout. Donc, la relativité s'applique à bord d'un Airbus, simplement, le changement par rapport à la mécanique classique est tellement infime qu'on ne le voit pas. Si on considère un satellite, par exemple les satellites qui servent à faire fonctionner votre GPS, lui se déplace à 14 000 km à l'heure, donc nettement plus vite qu'un Airbus, le ralentissement est un peu plus grand, il y a un peu moins de zéro, et ça fait en fait un décalage de quelques microsecondes par heure. Et là, en fait, c'est suffisant pour qu'on doive en tenir compte, parce que les satellites GPS embarquent des horloges extrêmement précises qui sont indispensables pour le calcul qui vous indique presque instantanément dans votre voiture où est votre voiture. Et là, dans les calculs de localisation, le tout petit ralentissement du temps à bord du satellite est pris en compte. Donc c'est un effet quantique qui est petit, mais pour des mesures de très grande précision comme celles qu'on fait avec un GPS, est mesurable et doit être pris en compte. Alors, deuxième exemple, c'est la dualité onde particule. Donc ici, c'est l'expérience classique qu'on appelle l'expérience de diffraction. oublier ce petit point-là, j'y viendrai ensuite. On envoie de la lumière par une fente sur un endroit où il y a deux fentes très fines, et au lieu d'observer un point lumineux ici, un point lumineux là, on voit ce qu'on appelle des franges, c'est-à-dire des successions de bandes claires et de bandes sombres. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence, l'onde qui est partie d'ici et qui a été séparée en deux. Il y a un phénomène d'interférence, positive ou négative, qui fait que l'on observe ce type de schéma. Et en fait, ce type de résultat, on l'observe aussi si on envoie, au lieu d'envoyer de la lumière, qu'on considère en général comme une onde, mais qui est aussi formée de particules, qu'on appelle des photons, mais on l'observe aussi, par exemple, si ce qu'on envoie ici, ce sont des électrons. Donc là, ce sont franchement des particules qui ont une masse très petite, mais une masse précise. Eh bien, les électrons, eux aussi, bien qu'on ait l'habitude de les voir comme des particules qui vont passer par un trou ou par l'autre, et qui, a priori, n'ont pas de raison d'interférer entre eux, on observe bel et bien une image d'interférence. Et donc, un électron, il a, selon l'expérience que l'on fait, soit un aspect plutôt de corpuscule, soit un aspect de particule, soit un aspect ondulatoire. Et ce type d'effet, la longueur d'onde, si vous voulez, est de plus en plus petite au fur et à mesure que la masse de l'objet augmente. Et en fait, les objets les plus gros pour lesquels on ait pu observer l'onde dans ce genre d'expérience sont des objets qui comportent 60 atomes, donc c'est encore relativement petit. Et donc, il y a bien une bactérie, il y a bien aussi une onde associée à une bactérie, il y a bien une onde associée à une balle de tennis, mais cette onde a une longueur d'onde tellement courte qu'elle n'est absolument pas observable. Donc, de nouveau, on retombe sur une vision qui correspond à la mécanique classique. Et cette dualité onde particule, elle se manifeste que si l'on regarde les choses à l'échelle de tout petits atomes ou de constituants des atomes. Dernier point, la radioactivité, qui est à la fois aléatoire et en même temps parfaitement prévisible. Si on prend par exemple l'exemple du carbone 14, vous savez, qui sert souvent dans la mesure de l'âge d'un sédiment, d'un échantillon de bois, par exemple, le carbone 14 est une forme instable du carbone qui se désintègre en donnant un atome d'azote et puis un électron, un neutrino. Bon, les détails ne sont pas importants. Et ça émet ce qu'on appelle un rayonnement bêta et ça se détecte très facilement avec le compteur Jüger qui est photographié ici. Eh bien, en fait, à l'échelle d'un atome de carbone 14, on ne peut absolument pas dire quand cet atome va se désintégrer. Même si on attend 1000 ans, la probabilité qu'il se désintègre dans la minute qui suit reste exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a une certaine probabilité, on sait qu'il y a une probabilité d'un demi de se désintégrer en 5730 ans. Mais si on attend 5730 ans et qu'il ne s'est pas désintégré, on ne sait rien de plus. Donc il n'y a pas de vieillissement des noyaux, mais en même temps, la probabilité pour chaque noyau de se désintégrer est précise et permet donc, si j'ai un échantillon de carbone 14, par exemple, si j'en prends un microgramme, ce n'est pas beaucoup, ça fait, on peut calculer que ça fait 40 millions de milliards d'atomes, et à ce moment-là, on calcule que chaque seconde, il s'en désintègre 150 000, avec une toute petite variation, puisque c'est un phénomène probabiliste, statistique, et donc on sait parfaitement que sur ces 40 millions de milliards d'atomes, il en restera 20 dans 5730 ans, et puis au bout de 11460 ans, il en restera 10 millions de milliards, et ainsi de suite. Donc, bien que le moment auquel un atome va se désintégrer soit complètement imprévisible, on peut parfaitement savoir ce que va devenir cet échantillon de carbone 14 et combien il en restera au bout de n'importe quelle période de temps qu'on veut définir. Donc, je vais terminer ma partie. Donc, le monde quantique n'est pas un autre monde. Nous vivons dans un monde quantique. Les lois physiques quantiques sont universelles. Elles s'appliquent aussi bien à une particule qu'à un humain ou qu'à la Terre ou à la Lune. Simplement, à notre échelle, il y a une version simplifiée, qui est ce qu'on appelle la mécanique classique, qui est la mécanique qu'on avait définie avant de tomber sur ces problèmes qui ont obligé à modifier la mécanique. Donc la version simplifiée est valable à notre échelle, et la plupart des effets quantiques n'ont pas de conséquences mesurables, visibles à notre échelle. Ce qui n'empêche que on peut, par exemple, on a pu développer les lasers, comme ce laser avec lequel j'éclaire, il repose typiquement sur un phénomène quantique au niveau de l'excitation d'atomes qui sont produits à l'intérieur de cet objet. Voilà ce que je voulais dire, donc je repasse la parole à Christophe. Thank you.